Alors moi, je voulais prendre avec vous le psaume 8 pour poser la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Revoir ensemble ce qu'est l'homme. Le psaume 8, je le lis intégralement. Au chef des chantres sur la guittite, psaume de David. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je relève d'abord que au début et à la fin du psaume, il y a cette affirmation voilà, du nom de l'Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est le nom du Seigneur qui est au-dessus de tout. Mais il est aussi question de l'homme dans ce psaume. Avec cette question, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc le psaume dit au sujet de l'homme, il dit sa petitesse face à l'univers, mais aussi il dit la grandeur de l'homme donnée par Dieu. Puisque tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Nous avons donc une double réalité. Premièrement, l'homme qui est petit face à l'univers et face à Dieu lui-même. Et deuxièmement, l'homme qui reçoit de la grandeur et une domination sur toutes les œuvres de Dieu. Alors cela n'est pas notre condition actuelle. Ce n'est plus, ou ça n'a pas pu être. Ça c'était ce que Dieu avait prévu. C'est la condition de l'homme parfait, en fait tel que Dieu voit l'homme en Jésus-Christ. Parce que depuis, il y a eu l'intervention de Jésus-Christ dans la vie humaine. Mais sinon, ce plan parfait du Seigneur, l'homme l'avait manqué. Et elle est justement cette condition de domination sur toutes les œuvres de Dieu. Eh bien, cette condition, elle n'est que simplement jalousée par l'homme charnel, l'homme pécheur, mais jamais il ne l'atteindra. Elle est réservée à ceux que Dieu jugera dignes par la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Donc le psaume 8, en quelque sorte, donne le projet de Dieu abouti. Et curieusement, ce psaume est repris et, je dirais, déformé dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 2, versets 5 à 8, et vous allez voir la déformation qui s'est produite. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il n'y avait pas les références avec les chapitres et versets, en fait, dans les Écritures auparavant. Mais c'est bien de ce psaume 8 dont il est question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc dans cette citation, vous avez remarqué que un peu inférieur à Dieu, qui est dans le psaume 8, est devenu pour un temps au-dessous des anges. Mais le résultat est le même. Il est maintenant au-dessus de la création pour la soumettre à la puissance de Dieu. Donc, et il est même beaucoup supérieur aux anges, puisque le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, versets 4 à 6, dit « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc en fait, nous avons deux versions d'une même réalité, sauf que le psalmiste omet une étape que connaît bien l'évangéliste, puisque les choses ont été accomplies lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde. Et c'est pourquoi donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'hésite pas à interpréter le terme original. Alors j'ai dit « déformé », mais en réalité il s'agit de l'interpréter. L'hébreu laisse place à des variations d'interprétation dans les mots. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut faire comprendre l'abaissement du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Sans cet abaissement, il ne pouvait pas nous rejoindre et donner remède à notre vanité. Parce que l'homme, dans sa nature corporelle, il n'est que poussière, tiré de la terre. Sans la puissance de la vie divine, il y retourne irrémédiablement, c'est Genèse, au chapitre 3, après le péché, verset 19, « Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Donc ça, c'est la condition de l'homme qui n'a pas saisi la présence de Dieu dans sa vie, qui a désobéi, qui s'est détourné de son Créateur. Et alors là, la vie de cet homme-là, elle n'est qu'un souffle, comme le dit psaume 144, par exemple, qui reprend la même question au verset donc 4 et 5, au verset 3. Donc, « Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Voilà ce qu'affirme le psalmiste ici. Un souffle ou une vapeur, comme dit Jacques. Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur, dit-il, qui paraît pour un temps et qui disparaît. Jacques chapitre 4, verset 14. Sa gloire passe comme celle de l'herbe, dit aussi Ésaïe, chapitre 40, qui est repris dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Donc, toutes ces vérités-là sont largement présentées par les prophètes. Et il est aussi écrit que l'esprit, la poussière, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésias, chapitre 12, verset 9. Mais que fera le Seigneur avec un esprit qui ne l'a pas glorifié? Il est dit dans Pierre que Christ est allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles lorsque la patience de Dieu se prolongeait lors du déluge. Voilà, ces esprits-là, ils ne sont pas dans la plénitude, dans l'épanouissement, dans la félicité, ils sont en prison. Donc le sort de l'esprit de l'homme qui n'a pas été régénéré n'est pas enviable. Et donc il n'est pas facile à l'être humain d'admettre cette vérité qu'une fois son corps retourné à la poussière, il a perdu sa gloire et il a perdu son avenir. Et on voit dans toutes les traditions les hommes qui ont toujours imaginé en quelque sorte des solutions de rattrapage à travers la réincarnation, à travers... On entend souvent cette expression, voilà, il a rejoint les étoiles. On ne veut pas admettre que non, il est vraiment cet homme qui vient de mourir, eh bien, il n'est plus rien. Il n'a pas de vie véritable, il n'est pas dans la gloire, il n'est pas dans la félicité, il n'est pas au-dessus de tout. Très difficile aux êtres humains d'accepter cette réalité. Et pourtant, il faut l'admettre, il faut l'accepter pleinement. L'homme est poussière et retourne à la poussière, il perd de la sorte sa gloire et son avenir à cause du péché. Et pour certains, donc, c'est terrible et désespérant. Ou même ça ne les désespère pas pour certains parce qu'ils ont admis que l'homme n'était rien. Parce qu'après, eh bien, ils pensent vraiment que voilà, il n'y a rien. Mais pour d'autres, dont nous sommes, c'est l'occasion d'espérer vraiment en Dieu. Comme c'est le cas de David. Vous allez voir comment David, en quelque sorte, renverse l'argument au psaume 103. Je vais prendre les versets 11 à 18. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Voilà, dans la foi, David renverse l'argument. Dieu sait que nous sommes poussière. Nous avons été réduits à rien par notre péché. Alors Dieu a compassion. Il fait miséricorde. Et nous sommes appelés donc à connaître Dieu qui nous a créés de la poussière, qui a mis en nous de son esprit et qui nous aime inconditionnellement. C'est là la seule réponse à notre vanité. Nous pouvons vivre. Nous avons un avenir. Mais par qui est-ce que nous avons un avenir ? Par Dieu lui-même. Non pas parce que nous sommes nous-mêmes, mais par Dieu lui-même et par la miséricorde qu'il a et la compassion qu'il a envers nous. Par sa compassion, Dieu nous rend la vie. Et donc, nous destine à nouveau à être ce pourquoi il nous a créés. C'est-à-dire, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, c'est là la réponse. Et la réponse est encore que l'Esprit qui était en Jésus-Christ, le Fils de l'homme, et qu'il a ressuscité d'entre les morts, eh bien cet Esprit de Dieu peut nous être accordé et redonner vie à notre esprit. Il nous, en quelque sorte, l'Esprit de Dieu vient pour nous connecter à la vie éternelle. Et si le corps meurt, à partir du moment où l'esprit a été régénéré, a été reconnecté à la vie éternelle par le don de Dieu, eh bien, l'esprit reste vivant. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 10, nous voyons et si Christ est en vous, je dis bien Christ est en vous. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et pour ne pas en rester là, l'apôtre poursuit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et là, le projet de Dieu s'accomplit. Ce projet qui était de faire vivre des fils de la poussière et de les amener à sa gloire. Et de leur donner la domination sur toute chose. Et tout cela a été rendu possible à cause de l'abaissement du Fils de Dieu, de celui qui avait l'autorité sur tout, mais qui a accepté pour un temps d'être fait inférieur aux anges, d'être abaissé en dessous des anges, de devenir homme, simple homme, serviteur, mourir comme un malfaiteur sur la croix, être ressuscité et rendu à la gloire au-dessus de tout nom, de toute puissance et de toute autorité. Alors, on peut dire, ne sommes-nous pas, nous aussi, chrétiens comme les autres, en train de donner accès à une solution de rattrapage, comme les autres peuples? Qui veut d'en juger, si certains pensent que nous ne faisons que, on peut dire, nous raconter une histoire pour assurer notre survie, c'est leur affaire. Pourtant, les prophètes, il faut être absolument clair là-dessus et l'affirmer, les prophètes ont parlé à l'avance par inspiration de ces choses. Et les apôtres ont prêché par démonstration. Ils ont vu le Seigneur à l'œuvre. Ils ont vu le Seigneur se donner. Ils ont vu le Seigneur ressusciter et monter au ciel. Jésus-Christ est bien l'image du Dieu invisible qui rend l'homme à ce qu'il est vraiment. L'image de Dieu. Sans Christ, nous avons perdu cette image de Dieu et nous ne sommes plus que, comme le dit aussi l'Ecclésiaste, des bêtes. L'homme sans Dieu et sans Christ n'est qu'un animal, ce que beaucoup finissent par admettre d'ailleurs, et même à proclamer. Les hommes, Dieu les éprouvera et ils verront qu'ils ne sont que des bêtes qui ont perdu cette image de Dieu. Mais par l'incarnation du Fils, cette image nous est redonnée, lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il faut relire, bien sûr, tous ces passages, mais avant de les relire, du moins quelques-uns, pas tous, rappelons-nous que lorsque Jésus a été mis en procès et qu'il est paru devant Pilate, qu'a fait Pilate à un moment donné? Il a amené Jésus devant la foule et il a dit: voici l'homme. Voici l'homme. Voici celui qui porte l'image de Dieu. Voici celui qui peut vous rendre à l'image de Dieu. Bien sûr, pour Pilate, il ne le voyait pas de cette manière, mais il a bien désigné ainsi Jésus tel qu'il est. L'homme créé à l'image de Dieu. Dieu, il est écrit dans Romains chapitre 8, je vous lis le verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et si je lis dans 2 Corinthiens 3, 18, eh bien, je trouve: et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et enfin Colossiens chapitre 3 verset 10. Enfin, 9 et 10, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. De la même façon que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire d'Adam, dit l'apôtre Paul, nous porterons l'image du céleste. Recréé en Jésus-Christ, nous porterons sur nous l'image de Dieu. Nous serons transformés pour refléter l'image de Dieu. Alors, que nous nous apprêtons à porter l'image du céleste, ne laissons aucune autre image s'interposer entre nous et le Père des Esprits. Ce qui est important, c'est que l'image de Dieu en laquelle nous avons été créés s'imprime en nous. Et si ce n'est pas le cas et que nous négligeons de nous approcher de Dieu et de nous former en Jésus-Christ, qu'est-ce qui est devant nous et devant l'humanité? De quelle image est-il question à partir du chapitre 13 de l'Apocalypse? Et à plusieurs reprises, il y a au moins 5 ou 6 mentions que les hommes, à la fin, qu'est-ce qu'ils feront? Ils adoreront l'image de la bête. Voilà ce à quoi ils s'en seront réduits. Ils vont adorer l'image de la bête parce qu'ils ont refusé celui qui vient leur proposer et leur donner gratuitement l'image de Dieu. Alors que ce soit vraiment cette vérité qui s'imprime en nous, cette recherche. Nous sommes, dans notre condition d'homme pécheur, nous ne sommes que poussière. Mais dans notre nouvelle création en Jésus-Christ, nous retrouvons la vocation pour laquelle Dieu a créé l'humanité, porter son image et, par la gloire de cette image, imprimer la présence de Dieu, son autorité, sa justice, sa vérité dans toute la création. C'est à cela que vous êtes destinés. Et j'espère que dans la foi, eh bien, vous allez vraiment marcher dans cet esprit et dans cette nouvelle réalité. Oui, à la fin, le psaume 8 sera pleinement accompli. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Voici, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. C'est votre avenir si vous êtes, si vous avez, comme l'apôtre le dit, si vous avez Christ en vous. Alors bénissons vraiment ce Seigneur qui est venu et qui a donné sa vie pour nous arracher à la vanité et nous rendre la gloire éternelle. Amen.